Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sous ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen.
Voilà, aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment un message. Ce sera plus un témoignage. Il y aura une partie certainement un peu d'exhortation, mais il m'a été demandé, et puis je pense que c'est un fardeau aussi que le Seigneur mettait sur mon cœur, de s'arrêter un peu et de réfléchir à tout ce que Dieu vous a déjà dit, nous a déjà dit en tant qu'Église, pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Alors c'est un dimanche un peu particulier, on est moins nombreux parce que bon, je pense que ça faisait longtemps que j'avais plus eu autant d'SMS des gens qui me téléphonaient pour dire bon, je sais qu'il y a certains qui sont dans la convention. Je vous invite à y aller cet après-midi, mais ils faisaient aussi un culte ce matin. On préférait rester ici ensemble pour certaines raisons. Et puis bon, plusieurs sont à des camps, donc je leur proposerai d'écouter un petit peu ce qu'on va partager ce matin. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter. Et se souvenir que Dieu nous a parlé, que Dieu vous a certainement déjà dit beaucoup de choses, et peut-être nous donner rapidement un peu de moyens pour bien gérer ces paroles. Que faire quand Dieu a parlé? Mais bon, ce texte était quand même interpellant. 2 Timothée 3, un texte tellement fort, toute écriture est inspirée de Dieu. Et le mot grec, c'est le mot est de l'inspiration, du souffle de Dieu. Toute parole est théopneustique, elle est soufflée par Dieu. Dieu parle, c'est utile pour chacun d'entre nous. Et puis, ces paroles adressées aux 7 églises de l'Apocalypse qui cadencent, que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit. On a besoin d'entendre vraiment ce que Dieu nous a dit. Si vous connaissez un peu, j'espère que je m'adresse à des gens qui de jour en jour connaissent mieux l'Écriture. Alors, quand je dis ça, c'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérimentale qui fortifie l'être intérieur. Le nombre de fois où Dieu a dû envoyer ses prophètes dans l'Ancien Testament pour dire à Israël, mais qu'est-ce que vous faites les amis? Pourquoi vous imitez les peuplades avoisinantes païennes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des statues en bois, en bronze, qui les invoquent et qui ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Et oui, c'est vrai, ces statues ont une bouche, mais ce Dieu-là ne parle pas. C'est vrai qu'on voit que ces divinités ont des mains, ont des oreilles, ont des pieds, mais ils ne bougent pas, ils n'entendent pas. Si souvent les prophètes, et il y a des psaumes magnifiques, « Israël, ton Dieu vit, ces idoles ne sont que du néant. Dieu parle, Dieu agit. » Que de fois il a dû aller interpeller son peuple. Notre Dieu, et comprenez bien que ce n'est pas du tout par prétention, la gloire est le seul vivant. Nous avons un Dieu qui parle et qui agit. Aujourd'hui, je voudrais vraiment graver cela dans nos cœurs. Nous avons un Dieu qui parle et qui agit. J'aime ce passage où, tout près de l'arrestation, et on voit que les opposants de Jésus cherchent vraiment à le faire tomber. Les Sadducéens, les responsables du temple, les aristocrates, on pourrait dire, qui ont une théologie tout à fait particulière, qui ne croyaient pas à l'au-delà, au surnaturel, aux anges. Ils viennent trouver Jésus et ils posent un problème. Ils veulent se moquer de Jésus, de la résurrection. Et puis Jésus dit ceci, « Mais vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous ne savez pas qui est Dieu, sa puissance. Vous ne connaissez pas la puissance de l'Écriture. Dieu, il va s'appuyer sur une révélation faite à Moïse. Exode 3, Jacques en a parlé quand il est venu. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a parlé et il ne connaissait rien du tout de ce Dieu qui parle et qui agit. Nous avons un Dieu, et je voudrais qu'on réfléchisse à cela, que notre Dieu est un Dieu qui parle. D'ailleurs, l'Écriture nous dit ceci, que Dieu, il a créé en parlant. C'est incroyable quand on y pense. Hein. Dieu a parlé, et il a créé en même temps. Vous imaginez la force d'une parole? Nous, peut-être on a déjà entendu des paroles qui ont été tellement fortes, ça a détruit une partie de nous-mêmes, ou ça nous a fortifiés. Mais Dieu dit, et cela crée les choses. Dieu pense l'univers et il crée l'univers. Dieu pense l'espèce animale et l'espèce animale apparaît. Dieu pense l'homme et la femme et le couple apparaît. Dieu dit, mais la puissance de la parole de Dieu... Dieu parle. Il a parlé à des hommes et des femmes et nous avons sa parole. Et nous avons sa parole. Il a inspiré les écrivains. Il les a conduits. C'était pas mécanique. Il était capable de les garder dans la vérité, de les inspirer. Il les a orientés. Et nous avons la parole de Dieu. J'aimerais aussi m'arrêter quelques secondes sur ce miracle auquel nous ne devons pas nous habituer. Nous avons ici, les anciennes Bibles, ça se perd un peu. Je pense que c'est bien au niveau de la culture, c'est bien. Mais ça peut être quand même dangereux. Il était mis la Sainte Bible. Hein? Ok, aujourd'hui ça sonne pas trop bien à l'oreille des contemporains, mais ça voulait quand même dire quelque chose, quoi. C'est pas juste un livre, c'est la sainte révélation de Dieu. Paul dit, quel est l'avantage des Juifs? En tout cas, au niveau du salut, non, pardon. Mais ils ont reçu les oracles de Dieu. Les oracles, les paroles puissantes de Dieu. Dieu a parlé et il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Nous avons ici, entre nos mains, l'un des plus grands miracles. L'histoire de la préservation des textes, de l'inspiration, du canon biblique. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Je voudrais vraiment nous dire que nous sommes au bénéfice de ce miracle et nous devons faire une grande place à la parole de Dieu dans nos vies. Tout compte fait, reprends la béquille, comme ça quand il vient, quand je... Bah, hein? Non, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants... En relisant mes notes ce matin, le Seigneur mettait de nouveau un fardeau tellement lourd pour nous. Nous devons être des hommes et des femmes de la parole. Et ce n'est plus... On appelait avant les chrétiens les gens du livre. Je pense que c'est plus vrai aujourd'hui. Je pense que ce n'est plus vrai. Je ne veux pas nous culpabiliser, pas du tout. Je veux nous responsabiliser. On a besoin de passer beaucoup de temps chaque jour dans la parole. Ce n'est pas du légalisme. Dieu, vous imaginez, Dieu nous a parlé. On est trop habitué à entendre ça. Dieu nous a parlé. Et nous avons là le moyen le plus sûr d'entendre Dieu, d'entendre sa volonté sur tous les domaines qui touchent notre vie. Je peux avoir toutes les réponses, tous les principes de vie. On est dans une société qui nous assaille d'informations, images, des paroles, des sons. Tu es entouré probablement, la plupart de tes collègues peut-être ne sont pas chrétiens. Et pendant toute la journée, tu es en train d'entendre souvent des choses, des valeurs qui n'ont, hélas parfois, rien à voir avec les valeurs de Dieu. Et tu t'imagines qu'avec tes 3 petits versets par jour et la petite méditation, c'est bon, que tu vas pouvoir être puissant, fort, ancré dans la volonté de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est de la blague. Ça, c'est de la blague. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on prenne du temps à lire, à méditer, à étudier, à rencontrer Dieu, à placer cette parole dans nos cœurs. Ça, c'est notre première priorité. Combien de temps prends-tu? Je crois que ça ne doit pas se calculer en minutes par jour. Je crois pas. Il faut des bons programmes de lecture. Des temps, tu t'exposes. Plus je lis l'écriture, plus je vois, plus je suis vraiment amoureux de l'écriture. J'aime lire la parole. J'aime relire la parole. Vous avez vraiment besoin, nous avons besoin de grandir, de prendre du temps pour entendre Dieu. Et peut-être, quand j'étais jeune chrétien, il y avait peut-être ce climat, mais qui n'existe, je pense, pratiquement plus aujourd'hui, où c'était l'écriture pour l'écriture. Hein, presque un peu de bibliolâtrie, peut-être bien, c'est peut-être un peu fort, un peu méprisant, mais je crois pas. Je crois que parfois c'était vraiment une connaissance juste pour connaître. Ça, je pense que dans beaucoup de milieux, ça a vraiment disparu. C'est bien. Mais on n'a pas du tout remplacé ça par un ancrage dans la parole pour y entendre Dieu, pour David dit, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Israël rentre dans cette terre et si souvent il est dit, vous garderez mes prescriptions, s'il vous plaît. Vous garderez ma parole afin de ne pas devenir comme eux, ces peuples-là qui ont souillé le sol. Pourquoi Dieu a-t-il dû chasser les Cananéens? Pourquoi sont-ils, Israël a dû rester 400 ans? Si vous lisez bien l'écriture, une des raisons, c'est que c'était le temps de patience pour les Cananéens. Je ne peux pas encore les chasser, je vais leur laisser une chance. Il y a encore une chance, il y a encore une chance. Et puis à un moment, le niveau de dépravation était tellement grand, ils ont... Je vais les vomir. Ils ont tellement souillé le sol. Vous voyez, le péché, c'est pas simplement quelque chose qui vient abîmer les relations. Ça peut souiller le sol. Souiller le sol. Je peux pas laisser cette génération-là. Cette peuplade-là. Je ne peux pas les laisser. On va devoir reconstruire une arche. Et nous avons besoin. Comment voulez-vous mettre en pratique, vivre une parole que nous ne connaissons pas? Que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas si tu as enregistré le message de vendredi. Si pas, de toute façon, je demanderai à Aristo de le repartager. J'étais interpellé par les témoignages qu'il donnait de personnes dans le ministère qui sont tombées dans le problème de l'immoralité sexuelle. Mais je me dis, mais je crois que c'est dû à le fait que n'y avait pas ce contact aussi assez régulier que la parole. Parce que quand tu lis la parole, très souvent, sans que tu cherches, tu fasses une étude sur l'adultère, des choses comme ça, ces textes vont venir sans cesse en toi et vont installer une personnalité fidèle, droite, qui, Job disait, je ne mettais rien de mauvais sous mes yeux, mais jamais j'aurais regardé une vierge, jamais. Pourquoi? La pensée de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que si tu ne regardes que des séries, et ta, on installe tellement un climat. Ouais, ben j'ai couché avec là, et alors? Et c'est pure folie. Il y a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est notre cadeau. Ce sont les vraies valeurs. Les valeurs du royaume de Dieu. Jésus, après sa résurrection, voit les disciples d'Emmaüs, Cléopas et l'autre, et il est obligé, il dit, oh, que vous êtes lent à comprendre, si peu intelligent, et il recommence par la loi et les prophètes, et il leur explique ce qui le concernait. Que ce devait être bon d'entendre Jésus relire la Genèse, et prêcher l'Exode, en parlant de lui. Ça prend du temps. C'est un programme de vie. Un programme de vie. Que votre vie gravite autour de ces temps devant Dieu, ces temps dans la parole. Hein, on pourrait dire, oh, c'était sympa, Pierrot est venu, et puis Élisée avait dit, soyez puissants, c'est bien. Oui, mais attends, oui, ok, c'était sympa, t'es bien habillé, Pierrot. Non, je rigolais, hein, Pierrot. C'est parce qu'ils ne me comprennent pas, hein. Oui, ok, on peut entendre ça, mais si demain, de toute façon, ça sera une petite dose homéopathique de la parole, cette parole de Pierrot, elle devient source de jugement. Dieu pourra me dire, mais je t'avais dit et redit, ancre-toi la parole. C'est pas une question de QI, mes amis. La vraie sagesse, la vraie intelligence. Si vous lisez l'Écriture, vous m'avez dit, qui est intelligent? Celui qui me connaît et qui garde ma parole. Ça, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vous fait croire que l'intelligence, c'est une question de diplôme, d'argent, qu'importe l'état de ta vie. Et bien souvent, c'est d'un lamentable, incroyable. On dit, mais ça, c'est quand même le sommet. Dieu dit non. C'est faux. La vraie intelligence, c'est la crainte de Dieu. Le respect de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on installe dans nos vies. Hein. Bien. Je vais prendre ce temps-là parce que je pense que c'est tellement important. Dieu est un Dieu qui parle. Intéressant, allons un petit peu plus loin. Intéressant de voir que dans la parole, qu'est-ce que l'on voit? Dieu vient parler à des gens. À des hommes et des femmes. Dieu n'a pas fait simplement d'envoyer un gros livre. Il n'a pas fait comme ça. Il est passé à travers des hommes et des femmes qu'il a conduits, qu'il a dirigés, il a respecté leur personnalité. Paul n'écrit pas comme Jean. Pierre dit d'ailleurs, chez Paul, il y a des textes un peu difficiles. Hein? Donc Dieu a respecté. Et Dieu s'est révélé. Mais c'est intéressant, quand tu regardes la Bible, de voir que, sans arrêt, Dieu vient parler à des gens. À des hommes, des femmes, des peuples, à l'humanité. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans cette grande révélation, il y a des mini-révélations. Dieu prend l'initiative de parler. Des gens ont entendu Dieu d'une manière ou d'une autre. On ne nous dit pas toujours comment, mais ce qu'on voit dans la révélation, cette révélation nous explique comment Dieu s'est révélé à des hommes et des femmes. Et il y a là un principe fondamental. Dieu est venu parler. Aux hommes, on a vu dans Jean 15, Jésus dit, vous êtes déjà purs? Parce que vous avez entendu ma voix. Et je vous ai dit, c'est un principe. Ce qui a permis aux disciples de rester sanctifiés et mondés, c'est le fait qu'ils entendaient la voix de Jésus. Et Jésus voulait continuer cela. Vous allez continuer à m'entendre, et cela va avoir un effet dans votre vie. Dans la révélation, toute une série de mini-révélations. Dieu parle et Dieu agit. tout au long de l'histoire biblique, on voit Dieu prendre l'initiative de venir parler. Je me dis, oh, je vais prendre plein d'exemples. J'aurai pas le temps, mais je trouvais ça tellement amusant et succulent de voir que Dieu est venu sans cesse parler aux hommes. Il y a eu l'exemple de Noé. Je voudrais quand même dire aux Américains parmi nous que l'arche a d'abord été construite en Hollande. Hein, il y a d'abord, on a pris l'initiative. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de faire tout ça, mais bref. Hein, si vous n'avez pas de quoi aller aux États-Unis, allez en Hollande. Mais Dieu a parlé à Noé. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, viens. Plein d'exemples où Dieu vient parler. L'église d'Antioche est là en train de célébrer le culte et Dieu vient parler. Mettez-moi à part ces deux personnes. Dieu parle. Dieu va parler à Agabus, annonce-leur qu'il va y avoir une grande famine. Tout au long de l'écriture, et c'est pour ça que j'ai repris ces sept clôtures des sept églises, aux lettres aux sept églises, avec chaque fois, écoute ce que Dieu dit, ce que l'Esprit dit. Parce que c'est un fait acquis, Dieu est un Dieu qui parle. Et je rentre dans cette deuxième partie où je vais te dire, Dieu est un Dieu qui te parle. Un Dieu qui te parle à toi, qui nous parle à nous en tant qu'Église. C'était important pour Noé d'entendre la voix de Dieu. Sinon, même s'il savait nager, c'était terminé. C'était important pour cette Église d'entendre ce que l'Esprit était en train de leur dire. C'était capital, parce que dans la plupart, il y avait un message qui appelait un changement de vie. C'est important que nous entendions quand Dieu nous parle. C'est pas juste pour quelques ultra-spirituels, ce n'est pas vrai ça. Dieu est un Dieu qui veut te parler. Un Dieu qui s'occupe de son église, qui s'occupe de sa fiancée. On va parler de ça la semaine prochaine. Il aime sa fiancée. Des paroles de Dieu sont sorties de sa bouche. Des paroles de Dieu sortent de sa bouche encore aujourd'hui. Et des paroles de Dieu sortiront encore de sa bouche. Ils ont eu des révélations issues de la voix de Dieu. Ils ont eu des révélations issues de la voix de Dieu. Je voudrais te dire que tu as des révélations issues de la bouche de Dieu. Et nous aurons encore des révélations issues de la bouche de Dieu, via la parole ou via d'autres médias. Pas de souci, mais soyons-en certains. Je dis ça parce qu'il y a des milieux, et nous faisons partie d'une association qui, parfois, croit vraiment cela. Dieu a parlé une fois pour toutes, c'est terminé, il n'y a plus rien d'autre à nous dire. Oui, à la parole, hein. Mais Dieu continue à l'actualiser, à nous parler. Cela les a conduits à une connaissance de ce que Dieu voulait et ce que Dieu était. Quand Dieu s'est révélé, ils ont eu entre leurs mains une connaissance de qui était Dieu. Noé a eu une connaissance de qui était Dieu, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, mais en même temps de la grâce de Dieu qui veut sauver l'humanité. Ce que Dieu était et ce que Dieu voulait. Quand Dieu te parle, tu as une connaissance aussi de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Et nous allons continuer à avoir des révélations qui nous permettront de connaître ce qu'il est et ce qu'il veut faire. Cette connaissance a amené une véritable responsabilité pour eux. Cette connaissance, cette révélation a amené un sens plus aiguisé de la responsabilité. Noé était vraiment responsable de l'avenir de l'humanité, ce petit homme. 120 ans pour construire l'arche. Sacrée responsabilité, quand même. C'est pas une petite barque, hein. Chaque fois que Dieu a parlé à des hommes, à des femmes, à un peuple, il y avait une responsabilité. C'est pour ça que Dieu dira à Israël, écoute ma parole, s'il te plaît, votre sagesse. Ce ne sera pas le fait que je vous donne une terre, mais c'est de me connaître. Vous serez porteurs pour l'humanité d'un message de vie. Et cela les a chargés d'une responsabilité. Mes amis, quand Dieu nous parle, cela nous confère une responsabilité. Dieu ne se dit pas, oh, je vais juste le dimanche matin un peu leur faire plaisir, et puis oh, ce sont des braves gars, mais irresponsables, donc la semaine ils vont aller jouer un peu dans leur bac à sable, on se reverra dimanche. Non, pas du tout. Ça charge ses enfants d'une responsabilité. Est-ce que tu sais que quand Dieu t'a parlé, inévitablement, cela t'a chargé d'une sacrée responsabilité. Je vais d'abord me le dire à moi-même. Et dans un sens, c'est bon que je tremble. Alors, je ne peux pas passer ma vie qu'à trembler. Il faut que ce tremblement s'extériorise et fasse place à un véritable engagement. Un vrai sérieux. Quand Dieu parle, quand Dieu a parlé à Pharaon, pas le méchant, le gentil, hein, sous l'ère de Joseph, il y avait intérêt d'être responsable. Hein. 7 bonnes années d'abondance. Ok, mais après viendront 7 années de disette. Il fallait vraiment être responsable. Hein. Et Joseph était cet homme. Et l'Église doit être cette Église tellement responsable. C'est super le don spirituel. Mais c'est pas juste pour créer une ambiance. C'est pour nous rendre de plus en plus responsables. Comment ont-ils réagi? Cela a déterminé la qualité de leur expérience vécue avec Dieu. La manière dont ils ont réagi, cela a déterminé la qualité de l'expérience qu'ils ont vécue avec Dieu. Ça me fait aussi trembler quand je lis dans les évangiles des gens qui viennent trouver Jésus. « Oh, je vais te suivre. Oh, partout où tu veux. » Puis Jésus dit « Ok, mais d'abord fais ça. » Ils entendent une parole de Dieu qui peut amener une expérience incroyable. C'est parce que c'est Jésus qui dit « Suis-moi. » Et ils ne le font pas. Et on n'entend plus parler. Hein, l'homme riche, Jésus dit « Ok, oui, c'est super de t'avoir dans l'équipe. Ça sera pas le club des 12, ça sera les 13. Ok, on va trouver un bon sens au chiffre 13. Mais il faut juste que tu règles ça, puis tu viens. » Comment a-t-il réagi? Mal. Et il n'est pas rentré dans l'expérience avec Dieu. Dieu t'a parlé. Et Dieu va continuer à nous parler. Comment je vais réagir? Ça va déterminer le type d'expérience, le type de vie que je vais avoir sur terre. Et c'est tellement sérieux qu'un jour Jésus va dire, Béja, approche-toi. Laurent, Chiara, approche-toi. Je vais récompenser le sens des responsabilités. Je t'avais dit ça, tu l'as fait. Parce que Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Dieu est bon et extraordinaire. Mais que serait cette bonté sans la responsabilité? Waouh! On comprend que quand Dieu parle, cela nécessite de notre part la joie. Comme disait Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais après, une volonté de répondre à un sérieux, quelle que soit la demande, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la moquerie, Regardez les prophètes, hein, parfois, Dieu, vous lisez ça rapidement, mais il leur a demandé des signes prophétiques, parfois coûteux, hein. Coûteux! Ils l'ont fait. Bannissons la légèreté et la négligence. Bannissons la légèreté et la négligence. Je crois que beaucoup de gens iront en enfer à cause de la négligence. Ils n'étaient pas plus mauvais que les autres. Hein. Mais ça, c'est tellement dans l'air du temps. La négligence. Dieu a parlé, moi j'ai négligé. J'étais pris dans cette frénésie de la vie et j'étais négligent. Je crois que Dieu veut vraiment aiguiser le sens de nos responsabilités. Devenir une église responsable. Je crois vraiment que beaucoup parmi nous, j'ai envie de dire même tous, vous avez déjà entendu Dieu. Dans la lecture courante de l'Écriture, sa volonté morale et générale. Mais je crois aussi que Dieu souvent a mis en relief des choses. Où tu savais qu'à ce moment-là, c'était pas Paul qui écrivait aux Corinthiens, c'était le Saint-Esprit qui parlait à Cédric. Bon. À ce moment-là, waouh, qu'est-ce que je fais? Tous, par voie prophétique, tu savais à des moments, tu dis, Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je voudrais vraiment que... Et je voudrais... Je vais terminer. Je vais encore prendre quelques minutes. Je pensais avoir plus de temps pour... Je le ferai peut-être une prochaine fois. Je vais peut-être quand même pouvoir dire... Est-ce que c'est important en tant qu'Église qu'on s'arrête et se dire, tiens, est-ce que Dieu a demandé des choses particulières à l'Église? Je vais peut-être m'arrêter sur, rapidement, deux, trois choses. Pour moi, l'une des paroles prophétiques les plus fortes que le Seigneur nous a adressées, et c'est pour ça qu'on veut orienter les fêtes de l'Église dans ce sens-là, c'est par rapport au grand mariage. Je résume une parole qu'il a dite, c'est qu'au ciel tout est prêt. Au ciel, tout est prêt. Jésus a dit il y a 2000 ans, je vais préparer. Maintenant, je crois vraiment que le Seigneur dit, tout est prêt. Et quand tout est prêt, vous êtes comme moi, quand tout est prêt, vous attendez les invités, vous dites, ok les gars, vous pouvez arriver maintenant. Hein? Tout est prêt. Est-ce qu'on peut s'imaginer, on peut comprendre qu'il tarde au Père de donner la fiancée à son époux? À Jésus. Parce que l'univers a été créé pour cela. Et cela doit façonner nos vies. Cela doit façonner la vie de l'Église. Ça nous rend responsables. Pensez à la parabole des invités. Allez! Plusieurs ont dit, oh non, 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 moi je dois m'occuper de ça. Ok, allez chercher les autres. Ça nous responsabilise. Parce qu'on sait que je pourrais prendre beaucoup de temps pour vous relater ce que le Seigneur a donné un peu partout sur la planète, à des hommes et des femmes. Le même message, c'est prêt. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Peut-être je vais m'arrêter sur encore une chose. Quand Pierrot est venu, le dimanche après-midi, je vous en ai parlé en disant, waouh, cette série de messages, je crois, pour l'Église, c'était importante. Je vous le relate pour ceux qui n'étaient pas là. Mais pour nous, en tout cas avec Laurence, et pour nous, Église, j'avais l'impression que le Seigneur disait, ok, nous rentrons dans une autre phase. Il y a 10 ans, on vivait des temps difficiles dans la famille. Jérôme avait été faussement accusé, était sorti de prison. Donc c'était le procès commençait. Donc c'était une période vraiment difficile, vraiment très très difficile. Toute la famille en souffrait. C'était une période où le Seigneur nous a était là et nous a travaillé. Il travaille pas seulement dans la bénédiction, il travaille aussi dans les moments de souffrance. Et j'ai eu une période où on dormait vraiment pas bien. Je pense. Et 1er novembre, jour de congé, il n'y avait pas de réunion. Je dis, oh, ça va être une soirée, une journée paisible. Et voilà, dis pas que ma femme se lève. Elle avait appris, je pense que c'était ce jour-là. En tout cas, je ne sais pas quand tu l'avais appris, mais elle dit, oh, il y a Dan Leuten qui vient, qui donne un concert, si on allait le voir, oui, où? À Carasbourg. Ça, c'est dans le fond des Ardennes. Ah oui. Ok, quelle heure? 21h30. Oh non. Non, parce que le lendemain, je pense que c'était un jeudi et le lendemain, donc il y avait toute une série d'activités. Bon, aimer, c'est pouvoir dire, ok. Vas-y, ma chérie, ça va, ça me pesait, 21h30, souvent, des organisations qui ont un peu de retard, ça va durer jusqu'à minuit, puis encore 1h30 de route, donc le lendemain, ça sera chaos pour toutes les activités. Mais dis, ok, on y va. Et on apprend, donc on se dit, on va partir un peu plus tôt, parce que c'est une région qu'on aime bien, on va aller se promener un petit peu, et on apprend que le concert ne fera pas à 9h30, mais à 19h30. Oh, super, Seigneur, tu es bon. C'est vraiment parce que j'ai aimé concrètement ma femme. Tu me bénis. Voilà. Et on a le concert à 7h30. Très bien, super. Et ça faisait partie d'un camp de jeunes. Hein, donc on avait dû se camoufler, donner l'impression d'être jeune, même si avec 10 ans, et on était là. Et donc après, on dit, on va aller. Et puis, on entend au programme que d'ici quelques instants... Eh bien, il y aura un message de l'orateur du week-end, et je pense que, je crois en tout cas, je dis, oh, c'est bien qu'on reste pour le message. Seigneur. Bon, voilà, on va rester pour le message. Ah oui, mais ce que j'oublie de vous dire le matin, oui, merci. Le matin, Oui, c'est déterminant. J'arrivais le matin, je prends mon temps de culte personnel. Et je suis, à ce moment-là, dans le livre de la Bible, à cette époque, que j'aime le moins. Maintenant, je l'aime un peu plus, mais le livre des juges. J'aime pas ce livre à cause du comportement du peuple d'Israël. Obéissance, désobéissance, obéissance, désobéissance. Tellement lamentable. Ça se termine de manière dramatique avec une femme qui est coupée en 12 morceaux. Quand même, Et je suis au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Et à ce moment-là, une parole Réma, vous réécoutez un message. À ce moment-là, profondément, Dieu dit, écoute, je vais faire de votre couple, mais je crois aussi que le Seigneur va dire, je vais faire de l'Église la même chose que Gédéon. Vous aurez ce ministère-là. Vous êtes dans une période de votre vie où vous avez l'impression que tout a été déraciné. J'avais envie de dire, Seigneur, cause toujours, quoi. Écoute, là où on en est, qu'est-ce qu'on peut vraiment encore attendre? Tu viens de nous rouler dans la boue, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi j'avais dit, Seigneur, à ce moment-là, je pensais vraiment, et à un moment, je dis, je vais arrêter le ministère, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Et cette parole vient là. Et je me souviens, je dis, écoute, Seigneur, si aujourd'hui, et je crois que tu ne m'avais pas encore parlé du conseil, il me dit, si tu ne me mets pas Gédéon en grand, je rentre pas dedans. Concert passe, dit ça y est, on y va. Non, on va rester pour le message. Bon, ça va, on reste pour le message. Et puis, alors, j'étais scotché. C'était un Marseillais, un ancien punk. Il a fait passer quelques photos de lui avant, mais le vrai punk, avec une crête, c'était, et de le voir. Et il n'a pas prêché. Mais il s'est baladé avec une feuille pendant une heure. Et moi, on a été scotché par son témoignage. Incroyable. Une vie maintenant avec Dieu formidable. Et voilà, il s'apprête à terminer son message. Et moi, je pensais plus du tout à ce que je dis le matin. Il dit, oui, il faut que je vous dise quelque chose, sinon les organisateurs vont vraiment être fâchés. Je vais préparer un message, mais je vais pas vous dire. Je devais vous parler de Gédéon, et il y a 500 personnes. Je dois vous parler maintenant de Gédéon pendant quelques instants. Le Seigneur me dit, tu m'as demandé que je te parle de Gédéon. Gédéon. Ok. Lisez l'histoire de Gédéon, je peux vous dire que c'est le profil de, même si vous le croyez pas, c'est vraiment notre personnalité. Et on est passé par toutes ces étapes où le Seigneur a dit, ok, il y a beaucoup trop ici. Hein? On a passé des années à chercher d'autres bâtiments ici. Les gens étaient debout. Hein? Et puis quand on a commencé à vouloir obéir, avec probablement des erreurs. Pendant cet été, je disais, Seigneur, je crois vraiment que tu as dit ça, je le crois. Plusieurs fois, tu me l'as rappelé. Mais où est-ce qu'on en est un petit peu dans ce programme? Pendant l'été, c'était, si pas presque tous les jours, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur me parlait à travers des livres, des méditations. Gédéon, Gédéon, Gédéon. On rentre de vacances. Moi, j'ai horreur de perdre mon temps. Alors, même quand on est en voiture de long trajet, soit moi j'écoute des conférences, ou alors je prie, ou on lit des livres. Alors, Pauline, qui aime beaucoup lire, qui lit très bien, allez chérie, tu vas lire, comme ça on va tous en profiter. Et on avait roulé toute la nuit, j'ai dit, matin, allez, encore avant d'arriver à la maison, encore un petit chapitre, vas-y. Et je venais de me dire, Seigneur, est-ce que j'entends bien là? Est-ce que l'étude, tout le chapitre c'était Gédéon. On a plusieurs séminaires, et je vais m'arrêter avec ça. Pierrot vient, et dit, écoute, il a rien dit pendant le week-end. Il a prêché 3 fois sur 4 sur Gédéon. Il dit, ça c'est la première fois. Dieu m'a dit, écoute, tu vas aller en Belgique. Je sais que tu ne l'as jamais fait. Je veux que tu passes ton week-end sur Gédéon. Et que tu leur dises que ce que j'ai fait avec Gédéon, je vais le faire avec eux. Dieu est un Dieu qui parle. Alors, je termine. Peut-être les musiciens, vous venez. Et je reviendrai sur ces 4 choses après. Je vous laisse venir et je vais juste les citer. Je reviendrai sur cela. Alors, quelles doivent être nos attitudes fondamentales quand Dieu nous parle? Je fais peut-être que les mentionner ce matin. Je les développerai une prochaine fois. Je crois qu'on doit exercer la réceptivité spirituelle. J'explique un petit peu ce que ça veut dire. Il faut qu'on apprenne à avoir des antennes spirituelles, réceptives. Je crois que la grande différence entre chrétien Dupont et chrétien Durand, C'est souvent une question de réceptivité spirituelle, une capacité d'écoute. Parfois, nous sommes des chrétiens autistes, dans notre petite bulle. Dieu peut parler, peut faire ce qu'il veut. Nous, on est dans notre petit truc. On doit devenir réceptif à ce que Dieu est en train de faire, à ce que Dieu dit. Et ça, ça s'exerce. On doit être des gens proches de Dieu. Réceptivité. Foi. Moi, je dois travailler avec ça. Que de foi, pendant ces 10 ans, je me suis dit, ouais, Seigneur. Et je dois vous dire, vraiment, je vous prêche ça. Et je sais que on lutte encore tellement sur... Est-ce que vraiment ça va se faire? C'est souvent un peu mon combat. Hein. C'est dire, ouais, mais regarde, toutes ces années, quoi, est-ce qu'il va se déclencher quelque chose? Je remercie Dieu. Septembre et octobre ont été très, très puissants. On a eu des séminaires très forts. Et il y avait un ami français qui venait pas ici, qui venait pas très loin, et on s'est dit, on va aller lui dire bonjour. Et il nous a dit, écoutez, de la part de Dieu, je vois dans votre église. Il n'était pas dans notre église. Il dit, mais je dois vous le dire de la part de Dieu. Je vois votre église, il y a des moments, ça arrive, vous ne pourrez même pas prêcher. Je dis, waouh, super, c'est... La présence de Dieu sera tellement forte. Il va se passer tellement de choses. Préparez-vous. Préparez-vous. Hein? Alors, il faut qu'on ait foi. Réceptivité, foi. Revêtement. Revêtement. Qu'est-ce que je veux dire? Je fais que le citer parce que le Seigneur m'a rappelé cet épisode. Vous savez, Élie, Dieu lui dit, écoute, t'as bien servi, mais je vois que t'es quand même découragé. Il y a ton successeur. Élisée, va le trouver. Et écoutez, il dit ceci, c'est 1 Roi 19. Il jette son manteau sur lui. Il jette son manteau. Et Élisée dit, écoute, je vais vite dire au revoir à mes parents, j'arrive. Et il lui dit, n'oublie pas ce que j'ai fait. Hein. Pense à ce que j'ai fait. Le revêtement. Dieu t'a dit quelque chose? Habille-toi de ce manteau-là. Habille-toi de ce manteau-là. Même si les choses ne sont pas encore là. Dieu t'a dit que tu partirais en Chine? Tu sais quoi? Habille-toi déjà comme un chinois. Tu sais quoi? Commence à apprendre le chinois. Oui? Sinon, tu me dis, moi, je vais seulement me préparer quand je serai sur le bateau. Ouais, ben, à mon avis, tu n'iras pas sur le bateau. Vous voyez, le revêtement? C'est important, peut-être, que on adopte cette mentalité du Gédéon. Ok, on est passé par les phases, mais maintenant on dit, ok, Seigneur, montre-nous le champ de bataille. Et avec nos flambeaux et nos cruches, on va y aller. On va y aller. Et puis l'obéissance, j'aime bien que ça, je mentionne ça. Réceptivité spirituelle. Foi, se revêtir et aussi l'obéissance. Obéissons à ce que Dieu dit. Parfois ça peut être coûteux, mais c'est tellement bon. Claude et Ludivine, divine. Ah, c'est peut-être ça ton vrai nom. Non. Pourrait dire, ah oui, moi j'aime quand même bien Patrick, donc, oui, mais peut-être que Dieu, je crois vraiment que Dieu dit, ça sera Noé ou Noah. Parce qu'il y a un sens. Nous, les Européens, on n'a pas fait suffisamment attention à ça. Et dans l'Écriture, on voit que les noms sont souvent porteurs d'une destinée. D'une destinée. Obéissons. Obéissons. On chante un chant, après on prendra la scène et c'est Aristo qui nous conduira.